Salut!
Vous écoutez Qui veut épouser le fisc, une série de podcasts réalisée par Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
On est toutes les deux étudiantes en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Et pendant plusieurs mois, on s'est intéressées aux histoires d'amour et d'argent. Alors le fric dans le couple, tabou ou pas tabou? Et qui gère les comptes? Le mariage, c'est oui ou bien c'est non?
Qui veut épouser le fisc, c'est 6 épisodes sur l'organisation financière des amoureux, mais aussi des réflexions sur les inégalités de genre entretenues, voire aggravées par notre système d'impôts.
Fiscalisation des pensions alimentaires, caution conjugale, solidarité fiscale, bref, on va vous parler cash. Bonne écoute!
Mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour.
Dans les épisodes précédents de Qui veut épouser le fisc, nous avons été à la rencontre de 4 couples: Delphine et Quentin, Tiffaine et Eric, Emmanuel et Olivier, et Louise et Tristan. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes, mais aussi leur portefeuille. Quelle que soit leur organisation, leur constat est unanime: amour et argent peuvent faire bon ménage.
Que ce soit sur le compte commun ou nos comptes respectifs, techniquement, c'est un peu le même argent, puisqu'à chaque fois, on l'investit pour l'un et l'autre, en fait. Donc, tout le monde, comme je lui dis, tout l'argent qu'il y a sur mon compte perso, bah, c'est un peu aussi le sien, techniquement. Donc, s'il y a vraiment besoin, je peux lui donner, quoi.
En fait, même si on a nos comptes séparés, on considère que c'est le patrimoine de la famille, quand même. Donc, l'argent qui n'est pas dépensé par l'un ou l'autre, bon, on le met dans l'épargne de la famille. On a nos comptes, donc on aime bien avoir cette liberté, parce qu'à la rigueur, si on a envie de se faire plaisir, c'est avec notre argent. Donc on aime bien cette liberté, mais on a quand même la notion d'avoir un patrimoine commun, quoi.
Ça dépend un peu des circonstances. Quand on est en vacances, bon, c'est le budget vacances, donc c'est souvent le compte commun. Quand on se dit, tiens, on sortirait bien ce soir, je t'invite. Bon, bah d'accord. Voilà.
Je pars du principe qu'à partir du moment où ça touche notre compte perso, si tu veux faire une grosse dépense, ça regarde que toi. J'aurai un avis à t'apporter et je te donnerai mon avis dans tous les cas. Et je te dirai, bah, écoute, moi je trouve que ok, bah, si ça peut te faire plaisir, ou bah, à l'inverse, moi je pense que tu devrais pas. Mais dans tous les cas, ça reste tes sous. Et tant que ça impacte pas justement, je pense, notre gestion de vie commune, bah, je vois pas grand chose à dire, entre guillemets, quoi. Je peux pas t'interdire d'acheter une Switch. Enfin, si t'as envie, t'as envie, quoi.
C'est ça. Et moi des vêtements.
Par exemple.
Les histoires d'A, qu'elles soient d'amour ou d'argent, ne finissent pas toujours mal. Et heureusement. Sans pousser les amoureux au règlement de compte, les inégalités dont nous allons parler dans cet épisode sont latentes, puisqu'elles sont le résultat d'incitations fiscales. Fini les déclarations d'amour, on passe aux déclarations d'impôts, en s'intéressant aux cautions conjugales. Cette mesure fiscale concerne 44% des couples français, et si elle leur permet souvent de payer moins d'impôts au niveau du foyer, elle entretient les inégalités de genre et socio-économiques.
Bon, on ne va pas tourner plus longtemps autour de l'impôt. Le quotient conjugal, c'est quoi? On a posé la question à Quentin Parinello. Il est l'auteur du manifeste d'Oxfam, publié en décembre 2021, qui propose 15 mesures chiffrées pour réformer la fiscalité.
Le quotient conjugal, c'est de dire, au lieu de vous faire payer chacun de votre côté en fonction de vos revenus, on va additionner vos revenus et on va vous imposer un barème unique. Donc ça va faire baisser le taux d'imposition de la personne la mieux payée, le plus souvent un homme, et ça va faire augmenter le taux d'imposition de la personne dans le couple la moyen payée, le plus souvent une femme.
Concrètement, le quotient conjugal permet aux couples mariés et pacsés de payer moins d'impôts en les obligeant à faire une seule déclaration de revenus. On parle de conjugalisation. Le fisc va en fait se baser sur la moyenne des salaires du couple pour en calculer un taux d'imposition commun, donc un taux qui s'appliquera aux deux parts. Alors qu'en union libre, chacun déclare individuellement et est donc imposé en fonction de ses revenus propres. Dans ce cas, pas de foyer fiscal. En moyenne, la conjugalisation augmente de 6 points le taux d'imposition des conjoints qui gagnent moins, donc souvent la femme, tout en diminuant de 13 points le mieux doté en ressources, en général, le mari.
Lors du premier épisode de la série, vous avez fait la connaissance de Delphine et Quentin, un couple d'actifs d'une trentaine d'années qui habitent dans le Finistère. Ensemble depuis leurs études d'ingénieur, ils ont commencé par déclarer leurs revenus séparément.
Et moi aussi, de mon côté, quand j'ai fait ma déclaration, bah, j'ai déclaré que j'étais en concubinage, mais du point de vue des impôts, c'est considéré comme célibataire, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il m'a calculé un taux directement par rapport à mes revenus d'avant et mon travail. Donc, voilà.
En décembre dernier, ils ont décidé de se pacser pour bénéficier de la réduction d'impôts qu'offre le quotient conjugal.
Bah, j'ai même plus la date, j'ai honte. C'était en décembre.
C'est l'année dernière.
Oui, en décembre.
Décembre dernier, c'est
décembre
ça.
Décembre dernier, mais je ne sais même plus. Le 12, peut-être. Putain, je ne sais plus.
Non, je crois que c'était le 16 décembre. C'est pas important. On savait que c'était le 16
voilà,
décembre.
C'était, voilà, c'est pas le plus important. C'était vraiment pour le côté fiscal, quoi. C'est-à-dire de faire un seul foyer avec une seule déclaration. Mmh. C'était le but.
C'est ça.
Du coup, vous aviez simulé les déclarations si vous aviez été tout seul et si vous êtes pas
expert. Oui, on avait fait la il y a le calculateur là d'impôt en ligne, on peut calculer notre situation. Vu que j'avais ses revenus, j'avais les miens, on pouvait avoir une estimation des impôts.
Et moi, donc avant qu'on se paxe, j'avais une imposition, donc en même temps, on est passé au prélèvement à la source. J'étais à 2,2%, il me semble, de prélèvement, ce qui fait que c'était une cinquantaine d'euros net. Par mois qui était prélevé sur le salaire. Quoi. Donc ça allait encore, mais c'est vrai que bah, avec la simulation, on s'est dit bah, là, je tombais à zéro direct.
Il tombe à 0%.
Delphine et Quentin comptent parmi les 7 millions de ménages bénéficiaires du quotient conjugal. Dans cette masse de petits vénards, 1,7 million seraient imposables sans la conjugalisation. Ça donnerait presque envie de se passer la bague au doigt. La madrina voudrait la bague au doigt. La madrina
voudrait la bague au doigt. La madrina. La conjugalisation n'a pas d'effet sur tous les couples. Elle ne change rien pour les tourtereaux qui mettent leurs revenus en commun, ce qui est de moins en moins fréquent, comme vous avez pu l'entendre dans les épisodes précédents. Pas de changement non plus pour ceux dont les revenus sont équivalents. Mais quand les partenaires ont de gros écarts de salaire, ça coince.
Pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. Quentin Parinello est revenu pour nous à l'origine du quotient, dans les années 40.
Lorsqu'on parle typiquement du quotient conjugal, il part d'un présupposé qui est un présupposé sexiste, qui est de dire que lorsqu'on a un couple hétérosexuel avec des disparités salariales, c'est forcément un poids pour la personne qui est la mieux payée. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est un homme. Et donc, on va donner une réduction d'impôt au couple et donc qui va profiter en majeure partie à l'homme pour, en gros, entre guillemets, compenser le coût de son ménage et du fait d'être en couple avec une personne qui est moins bien payée. Donc, c'est un présupposé sexiste, ça a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec toute la vision familiale à l'époque de dire bah, les femmes travaillent peu, elles sont moins bien payées, et donc l'homme qui se met en couple avec la femme, on va lui donner une réduction d'impôt.
Prenons l'exemple d'un couple fictif, Véronique et Michel, par exemple, Véro et Michou pour les intimes. Lui travaille, elle aussi, mais au sein du foyer. Le fisc part du principe que l'inactivité de Véronique est une charge pour Michel, et fait donc bénéficier ce dernier de deux parts fiscales. Donc l'impôt global du couple baisse. Lui paie beaucoup moins que ce qu'il paierait seul, mais elle beaucoup plus. Bref, Véro se fait avoir.
L'enjeu, quand on a un couple comme ça, l'arbitrage qui va être fait, c'est de dire bah, il faut que l'homme travaille plus, parce qu'il sera beaucoup moins imposé sur ses très hauts revenus que la femme. Et donc, c'est une situation de dépendance, puisque la femme a beaucoup moins de revenus à elle, mais par ailleurs, c'est un facteur de spécialisation au sein des couples. Et ça force à la spécialisation des tâches, et notamment au fait que les femmes soient assignées à du travail domestique non rémunéré.
En plus de les inciter à se marier, ce système avantage donc les couples aux revenus inégaux. Et ça, en 2022, ça pose problème.
Du coup, la question, elle est triple. Un, c'est donc l'héritage d'une vision du couple qui est complètement archaïque, qui est sexiste. Ça a créé une situation de dépendance pour la personne la moins bien rémunérée. Dans 3 cas sur 4, dans un couple, c'est une femme qui est moins bien rémunérée. Ça exacerbe la spécialisation des tâches. Puis par ailleurs, ça crée aussi une rupture d'égalité. Pourquoi on offre des ruptures d'impôts à des couples, des réductions d'impôts, pardon, à des couples par rapport à des personnes seules?
L'écrasante majorité des pays dits développés propose un système d'individualisation par défaut où chacun est imposé sur ses propres revenus.
Depuis la réforme du prélèvement à la source, les contribuables ont cependant la possibilité d'individualiser leur taux d'imposition. Cela peut être un avantage pour les couples qui connaissent de fortes inégalités de revenus, comme Emmanuel et Olivier que nous avons rencontrés chez eux, à Cesson-Sévigné. Tous les deux cadres dans les télécoms, ils ont un écart de salaire de 6 000 euros. Pourtant, ils comptent parmi les 96% de foyers fiscaux qui ont un taux conjugalisé. Pour Emmanuel, ce n'est pas une question de méconnaissance, mais de choix.
Moi, il me propose à chaque fois que moi, mon taux soit moins élevé que celui d'Olivier. Et en fait, on paye chacun en proportion de notre salaire, forcément, mais on paye le même taux, quoi. Et moi, ça me paraît normal. Enfin, voilà. Et je vois que le truc force le système en me disant à chaque fois, en gros, on propose qu'Olivier paye plus que moi, quoi. Mais c'est vrai que le système propose ça et enfin. Je trouve ça bizarre, quoi, presque. Parce que, bah, ok, voilà, je gagne moins, mais... Et ouais, c'est un peu comme s'il me disait, c'est pas normal que... que vous payez, enfin, autant en proportion. Mais voilà, ça reste une proportion, donc le montant, forcément...
Et pourquoi vous ne vouliez pas, du coup, prendre un taux qui vous aurait avantagé
Parce que, enfin, après, c'est aussi... bon, je pense parce que les... Comment dire? Moi, j'ai aussi suffisamment, à mon niveau, voilà, d'argent qui me reste pour que ça ne soit pas, un problème, quoi.
Et puis, c'est un ensemble, parce qu'après, comme Emmanuel, en parallèle, calcule notre contribution au compte commun... C'est...
Oui, comme je contribue moins, enfin voilà, je vais pas deux fois moins contribuer finalement, mais c'est aussi parce que dans la partie de ce qui nous reste, on va dire d'épargne, moi en gros, je me pose pas trop de questions, j'en fais pas grand chose, c'est sur des livrets A et je sais que Olivier réfléchit plus à la limite à des placements, donc vaut mieux qu'à la limite ce soit lui qui ait un peu plus d'argent qui reste que moi finalement, puisque de toute façon, j'en ferai pas grand chose quoi, enfin j'en ferai pas grand chose. En tout cas, je me poserai moins de questions.
Mais c'est vrai qu'on ne se pose jamais des questions. La seule fois où on s'est posé des questions, enfin, moi, je me suis posé la question, c'est que j'étais en période de chômage pendant un certain temps. Et donc là, la retenue à la source était déjà rentrée dans en œuvre. Et jusqu'ici, on avait le taux qui était un taux foyer fiscal. Donc c'était un taux assez élevé.
Originaire de Créin, Tiffaine a la cinquantaine et vit désormais à Paris. Elle est cadre financier, tout comme Eric, son mari. Au cours d'une période de chômage, elle a décidé d'individualiser son taux d'imposition sans même lui en parler.
Et moi, je me suis rendu compte qu'avec avec mon indemnité chômage, si j'appliquais ce taux commun, j'aurais pas assez pour tenir toutes les dépenses que je tenais habituellement. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai un niveau tellement plus faible, c'est pas logique d'avoir X%, alors qu'en fait, si je l'individualise, mais c'était divisé par 25, hein. Donc ça passait de 25% à 1%, donc ça a valu le coup. Et donc là, avoir l'impression que j'aurais dû demander de l'argent à mon mari, ça me gênait. Donc j'ai utilisé les règles qui étaient de dire, ben là, j'individualise le taux. C'est la seule fois où je me suis fait cette réflexion. Et parce que c'était une situation particulière. En fait, jusqu'ici, tu gagnais le fait qu'avant, quand c'était pas individualisé.
Parce que
le taux que je supportais moi, c'était beaucoup plus que ce que j'aurais dû supporter en étant toute seule. Et toi, au contrario, c'était moins. Mais on s'en était même pas rendu compte, parce que comme c'était toujours la notion de pot commun, là c'est vraiment parce qu'il y a une baisse de revenus et qui faisait que si je faisais pas ça, j'étais obligée de demander de l'argent à mon mari, alors que c'est... Donc je viens de le dire, c'est que c'est... Non, mais c'était... On essayait d'avoir... Je perdais un peu d'autonomie.
Alors, individualiser son taux ou ne pas individualiser? Pour Guillaume Allègre, économiste, la question est ailleurs.
Le problème, c'est que comment fait... Il y avait plusieurs moyens, comment individualiser un taux qui finalement est calculé au niveau global. Eh bien, la façon dont c'est calculé, c'est la façon la plus défavorable aux plus faibles revenus, donc en moyenne les femmes. C'est qu'on dit, on va regarder combien la personne qui gagne le moins aurait payé d'impôts si elle payait seule. Et après, on regarde... combien le couple doit payer d'impôts. Et puis le résiduel, c'est l'homme qui le gagne. Évidemment, on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu... Ce gain à l'imposition commune, là, aujourd'hui, il est entièrement capté par le plus haut revenu. Il aurait pu être entièrement capté par le plus bas revenu, ou il aurait pu être divisé entre les deux en fonction du revenu ou de l'impôt payé. Donc il y avait quatre façons en fait de faire, mais la façon qui a été choisie par l'administration fiscale est celle qui est objectivement la plus défavorable. C'est le plus bas revenu et les femmes pour qui c'est le plus défavorable.
Les normes sociales sont telles que dans la majorité des couples, les considérations de genre pèsent, plus ou moins consciemment, dans la balance des décisions.
On l'a vu, le système fiscal veut que si elle ne travaille pas, les revenus de son mari sont imposés à taux faible. Et si elle décide de travailler, son supplément de revenus sera très fortement taxé. Bon, on est loin d'être économiste, mais le calcul est simple. Le travail de la femme est parfois une variable d'ajustement, voire un complément de revenus, surtout si on rajoute des enfants à l'équation. En fait, le quotient conjugal offre les plus grosses réductions d'impôts aux couples où il y a les plus grandes inégalités salariales. Guillaume Allègre parle de prime à l'inégalité salariale.
parmi les couples qui ont des revenus inégaux, ça bénéficie surtout aux couples monoactifs. Donc, et généralement, c'est monsieur qui est actif et madame qui est au foyer. Aussi, puisque vous êtes imposé à la moyenne des revenus, un autre problème, c'est que s'il y a un conjoint qui travaille, mais qui gagne beaucoup moins que le deuxième conjoint, souvent la femme d'ailleurs, mais ces inégalités sont encore plus importantes parmi les couples. Pourquoi ? Parce que généralement, les femmes sont plus jeunes que les hommes. Donc, c'est à âge égal qu'il y a 23% d'inégalité. Mais donc ça, c'est autre chose. Et aussi parce que il s'avère que les personnes qui ne sont pas en couple, parmi les hommes, c'est plutôt les bas salaires, hein, et parmi les femmes, c'est plutôt les hauts salaires. Et donc ça fait que l'écart homme-femme parmi les hommes en couple est beaucoup plus élevé que l'écart homme-femme dans le foyer, finalement, entre les conjoints, est beaucoup plus élevé que l'écart homme-femme dans la société.
Donc, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a des choix à faire au sein du couple, c'est la personne la mieux payée qui va être incitée à plus travailler parce que ça va rapporter plus, ça va être moins imposé, et la personne la moins bien payée qui va être incitée plutôt à rester à la maison, à s'occuper des tâches domestiques. Et ça fait partie des dynamiques. C'est une des raisons, c'est pas la seule, évidemment, qui explique que les femmes aient des temps de travail, des contrats de travail plus courts, des temps partiels subis, qu'elles aillent dans les métiers les moins bien rémunérés, qu'elles priorisent moins leur choix de carrière par rapport à leur partenaire masculin.
Pour illustrer cette idée, le manifeste d'Oxfam cite une formule utilisée par les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, et qui nous est restée en tête à Camille et à moi. Si bien que quand on est allé à Paris, on espérait que Quentin Parinello nous la ressorte. Et bingo, il l'a fait.
La question qu'on pose, c'est effectivement apparemment celle de la dépendance, mais surtout celle de la spécialisation, parce que ça, si vous voulez, le présupposé idéologique derrière, c'est qu'on a un monsieur gagne-pain et une madame au foyer.
Les économistes que nous avons rencontrés le disent tous, le quotient conjugal doit être réformé. Pourtant, malgré ses limites, il reste un avantage fiscal pour les couples aux revenus inégaux, particulièrement pour les plus aisés. Dans le système actuel, les couples symétriques n'ont aucun intérêt à individualiser leur taux d'imposition, comme le permet désormais la réforme du prélèvement à la source. Alors est-ce qu'il faut changer le système ?
Dans le prochain épisode, un jour l'individualisation viendra, on s'intéressera aux pistes de réforme du quotient conjugal. Dit comme ça, ça fait pas rêver, mais vous allez voir, vous allez kiffer.
Dans cet épisode, vous avez pu reconnaître les histoires d'A, chantées par les Rita Mitsuko et fredonnées par Melrine Ateni, mais aussi Madrina, par Maës et Booba, et pour faire plaisir à ma colocataire, Monet Monet Monet, d'Abba. Vous venez d'écouter Qui veut épouser le fisc, une idée originale de Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
La pochette a été imaginée par Marion Lechêne, et c'est Liam Lenormand qui a créé la musique. Les interviews ont été menées à deux, Camille s'est chargée de l'écriture
et Perrine du montage. Merci de nous avoir écoutés.